Soir, j'aimerais proposer quelques réflexions à propos de l'état mental qui critique, qui juge, qui a des opinions. L'état mental qui en réalité surgit quand la réalité entre en collision, on peut dire, avec nos fictions personnelles. Et je pense qu'il n'est pas rare de le rencontrer et qui fait certes partie de notre environnement. Souvent, notre pratique, comme je l'ai déjà dit, est basée sur beaucoup d'attentes, d'expectatives, des attentes vis-à-vis de qui nous sommes, ce qu'on devrait penser, ce qui est intelligent, pourquoi nous pratiquons, comment notre pratique devrait se dérouler. Tous les espoirs. Et puis ensuite, il y a cette dimension de la fiction qui vient certainement par moments perturber ces attentes, questionner dans le meilleur des cas. Et par moment même, nos espoirs peuvent se désintégrer. Et on voit apparaître la peur, la colère, la tristesse, le désespoir, mais également le jugement. Donc, il n'est pas rare dans une retraite d'une certaine longueur. Pour certains d'entre nous, on a été ici depuis plusieurs jours. Et il va par moments surgir ce récit. L'histoire qu'on se raconte, les pensées qui émergent par rapport à beaucoup de choses, en fait. C'est un peu comme si nous avions un poste de radio allumé et que par moment on n'arrive pas à éteindre et que le canal, on pourrait dire, enfin moi je l'ai appelé description, commentaire, évaluation. Pas seulement par rapport à ce qui se passe intérieurement, mais on se distrait aussi dans le sens d'avoir plein d'idées, de commentaires, de descriptions, d'évaluations par rapport à ce qui se passe autour. Il y a peu de distractions en réalité, hein, donc c'est une manière en tout cas de pouvoir se distraire. Donc ça peut être une simple description qui nous arrive sous forme de mots, phrases parfois assez rigolotes, amusantes. Mais parfois pas du tout. Et on peut se rendre compte qu'il y a aussi parfois de la réaction par rapport à ce qui est exprimé. On est tellement proche de nous-mêmes que, sans aucun doute, la plupart du temps, ces commentaires passent complètement inaperçus. Ils font partie du paysage de notre vie quotidienne, sans aucun doute. Et qu'on est tellement loin à distance qu'ils sont tout simplement pas reconnus. Lorsque nous sommes dans un espace de silence, et même si on trouve qu'on n'est pas vraiment très silencieux, il n'y a aucun doute que ce bavardage va naturellement être perçu et reconnu. Et que par moments, il devient prédominant, troublant, pesant. Donc, si ce n'est pas votre cas, tant mieux. Si ça vous parle, eh bien, soyez à l'écoute. Pour ma part, ça a été très intéressant et ce pourquoi j'en parle, c'est qu'il n'y a aucun doute que dans des longues retraites, c'est parfois un défi d'être en présence de ce type d'expérience. Et qu'à nouveau, on ne sache pas très bien de quelle manière on doit s'y prendre, car sans aucun doute, l'état mental qui a cette dimension du juge, du critique, n'est certes pas neutre. De loin, pas neutre du tout. Donc, dans ces moments-là, c'est généralement rude et surtout complètement désorientant par rapport à qui nous croyons être. C'est même pas tellement que ça se situe par rapport aux événements, mais ça nous demande vraiment une très grande écoute, écoute silencieuse, pour pouvoir déjà se dire que ce type de récit nous habite, est là, dans le paysage. Donc je sais que, en tout cas, pour ma part, quand ça surgit et quand ça émerge, c'est une expérience qui peut être douloureuse si on se situe dans le sens de pouvoir être dans l'accueil de toute chose. Il y a pas mal de tensions qui émergent de ce rapport. Donc voilà pourquoi il est parfois important de comprendre que il est nécessaire de se resituer. Il y a la présence d'un dialogue intérieur. La manière dont on se parle, le ton qu'on utilise, la manière dont on a un point de vue, nous permet de nous rendre compte de la teinte de ce qui est en train d'émerger. Et c'est vraiment un aspect central, en tout cas pour ma part, ça a vraiment été quelque chose de très éclairant dans le processus méditatif. Un aspect central lorsqu'il y a petit à petit cette dimension de pouvoir déjà s'avouer que ces pensées sont là et qu'elles font partie par moment de l'espace dans lequel j'habite, et qu'en même temps, à nouveau, si le regard est juste, si quelque part le positionnement est juste, il y a une richesse immense par rapport au processus de transformation dont on parle à chaque instant. Donc, en retraite, dans l'espace du silence, cet aspect peut par moments même s'aiguiser, être exacerbé et... il est normal à ce moment-là de savoir aussi prendre un certain recul. On a souvent une attitude complètement erronée par rapport à ce type d'expérience. Première chose, on pense que ça ne fait pas du tout partie de la méditation. Et ça, c'est très intéressant. On a vraiment cette manière de regarder et de percevoir que cet aspect-là doit rester en dehors. D'où nos réactions multiples et diverses, naturellement sous forme d'aversion, de même pas entreprendre ou s'engager dans un rapport parce qu'on se dit ça ne fait pas partie de la méditation. Donc on condamne, on est dans le déni. Et naturellement, ceci ne fait qu'amplifier le mal-être. Il y a souvent une couche de jugement supplémentaire lorsqu'on commence à regarder, à vraiment percevoir ce qui se passe. Puis c'est vraiment très amusant parce que ça peut être des petits jugements, je sais que pour ma part, dans ces moments-là, l'humour est tellement important. Le jugement sur la couleur des chaussettes de ma voisine ou la personne qui est en train de marcher et que je trouve qu'elle a une démarche de canard. Tout ce qu'on peut rajouter qui est tellement drôle par moment et qui fait que je crois que ça apporte de la légèreté. le fait d'être dérangé par ceci ou par cela. Vraiment, toutes ces manières qui font qu'il y a une certaine irritation, peut-être une difficulté intérieure, et qui se porte à ce moment-là sur l'extérieur, qu'on projette tout simplement. Ensuite, il y a l'auto-jugement en rapport avec les autres. Comment moi-même je peux déranger tout mon environnement lorsque je déglutis, par exemple, un tout petit peu fortement. Combien de fois ça m'est arrivé? J'ai l'impression que toute la salle a les yeux focalisés sur moi. Et combien ceci est vraiment une manière de voir complètement tronquée. Donc, le fait de penser qu'on dérange. Une des fois où ça a été vraiment quelque part tellement intéressant pour moi de travailler sur cette dimension par rapport aux autres en retraite, dans le sens d'un espace partagé, mais en silence, c'est évident qu'il se passe tellement de choses par rapport à l'environnement. Je veux dire, il n'y a vraiment rien d'autre, donc il y a une manière aussi d'être un peu plus quand même calme, concentré, et on sait très bien que cette dimension de la concentration amplifie les choses. Donc, si vous ne le savez pas, sachez que la concentration a cette dimension où vraiment on va percevoir les choses de manière grossie. Donc, il y a une perte, quelque part, de prise de conscience de la réalité. Et je me souviens d'une fois où j'avais été assez concentrée et j'étais donc dans une marche méditative, et que quand je suis revenue dans la salle de méditation, j'étais tout simplement assise sur le coussin d'une autre personne. Et la personne m'a gentiment tapé l'épaule, pour me le signaler bien sûr, avec un grand sourire. J'ai repris ma place et ça a duré 2 jours. Vous vous rendez compte, j'en ai fait une montagne de cette histoire. Qu'est-ce que je vais lui dire? Comment je vais pouvoir m'excuser? On ne peut pas écrire de notes aux autres personnes. J'étais vraiment dans un registre d'auto-jugement absolument énorme. Forcément que ma pratique n'allait absolument pas bien. Parce que comment je pouvais faire une chose pareille? C'est tellement intéressant de voir l'enchaînement des réactions qui s'en sont suivies, et que j'ai décidé quand même d'aller chercher une très jolie feuille. C'était l'automne à Barrie dans le Massachusetts, et donc l'été indien, il y avait de superbes feuilles d'automne qui tombaient des arbres, et j'ai été chercher une feuille que j'ai mise sur son coussin. Et comme ça, j'ai un peu résolu mon attitude erronée par rapport à ceci. Et bien sûr qu'à la fin de la retraite, on en a ri, mais vraiment, elle et moi. Et puis elle me dit, mais t'inquiète pas, j'ai fait plein de choses exactement semblables à toi. Et puis ça arrive. Donc vraiment, c'est extraordinaire de pouvoir se rendre compte de comment l'esprit peut tourner les choses d'une manière dramatique et surtout amplifiée. Donc, beaucoup des enseignements nous arrivent sous la forme de contes, de légendes dans les sutras, emplis de paraboles. Et je crois que c'est important de se rappeler que ce sont des histoires qui, naturellement, nous enseignent des choses, mais pas forcément la vérité pure. Donc, une d'entre elles est centrale, et peut-être que vous la connaissez certainement. C'est l'histoire de la rencontre de Siddhartha, donc l'aspirant Bouddha à venir, et Mara. Et Mara est vraiment la personnification de tout ce qui peut aller mal, de tout ce qui nous dérange, ou au contraire qui nous tente, qui nous séduit. Et Mara a vraiment ce pouvoir d'ébranler nos aspirations, nos intentions les plus nobles. Donc, il représente naturellement les émotions perturbatrices de notre esprit. Mara n'est que, quelque part, la représentation. Et l'histoire raconte que le Bodhisattva, assis sous l'arbre de la Bodhi, la veille de son éveil, eut la visite de Mara. Donc, la veille de son éveil, vous remarquez. qu'à tout moment, ça peut émerger. Donc, hein. Et Mara l'assaille avec, il est dit, ses armées pour distraire l'aspirant Bouddha. Et il attaque avec ses 10 000 flèches, 100 000 flèches représentées par tout ce qu'on peut imaginer du désir, de l'agitation, de la colère, de la peur, du jugement, du doute. Dans ce cas, c'était le doute. Et donc, il est en présence de son propre esprit. Et naturellement, c'est exactement la même manière dont on rencontre le nôtre. Et nous savons bien tout ce dont est capable notre esprit. D'accord ? Lorsqu'il veut nous maintenir dans la confusion, nous tenter, nous empêcher d'aller de l'avant, nous maintenir de manière coupable, dans la peur, dans la colère, dans la honte, dans le blâme, dans tout ce qui peut émerger qui nous enferme. D'accord ? Donc, il est dit que dans cette histoire, Siddhartha, ce jour-là, eut assez de lucidité, de courage, de détermination et surtout d'attention consciente pour percevoir qu'aussi longtemps qu'il permit à ses forces de l'intimider, elles allaient agir sur lui et qu'il leur donnait du pouvoir. Et donc, ce jour-là, il prit la terre à témoin et il dit « Je te reconnais, Mara. Je t'ai déjà vu. Hein, tu ne m'auras pas cette fois-ci. Simplement, je te reconnais. Je te reconnais le jugement. Je te reconnais. » Pensée critique. Et naturellement, Mara s'évanouit, perdant entièrement de son pouvoir. C'est exactement ça qui se passe dans notre propre esprit lorsqu'on commence à pouvoir y voir clair. Et il est dit, bien sûr, dans la légende, que les flèches devinrent de magnifiques fleurs qui tombèrent du ciel pour bénir l'aspirant Bouddha. Donc, par ce symbole, cette symbolique, cette légende, Mara s'avoua vaincu. Il perdit la bataille. Et c'est exactement ce qu'on peut prendre comme exemple, comme histoire, lorsque on est complètement pris sous l'emprise des émotions perturbatrices, quelles qu'elles soient. Et c'est vraiment, quelque part, la base de notre enseignement, la clé ou la valeur essentielle de cette qualité de présence qui reconnaît les choses comme elles sont. En toutes circonstances, on va pouvoir se rendre compte que c'est le soutien absolu et l'axe de positionnement qui nous permet de changer notre regard. Plutôt que du jugement, il y a à ce moment-là peut-être un autre type d'éclairage. Donc l'axe central, lorsque nous sommes envahis d'obstacles, de difficultés, et que nous nous sentons repliés, nous pouvons toujours avoir confiance lorsque la présence emplie de sagesse vient à notre secours. À ce moment-là, ces difficultés n'ont plus le pouvoir de nous intimider, comme je l'ai déjà dit. Nous donnons trop de force, trop d'énergie pour essayer de résoudre ces difficultés. Donc, aussi longtemps que nous serons intimidés, nous essayerons de nous échapper, de fuir. Mais lorsqu'il y a par moment cette capacité, cette qualité de pouvoir s'arrêter ferme et de prendre la terre à témoin ou de prendre toutes les qualités que l'on cultive et regarder les difficultés dans les yeux, comme le fit Siddhartha, et dire « je te reconnais », alors les difficultés peuvent être toujours là, mais elles n'ont plus de pouvoir. Donc là, il y a là une transformation possible. Et c'est vraiment dans ces moments-là qu'on l'apprend beaucoup plus que lorsque on s'échappe de ces situations. Après tout, quand allons-nous apprendre la patience? Je peux vous le demander. Lorsque tout va bien? Lorsque tout est agréable? Peut-être pas. Et la compassion, quand est-ce qu'elle va émerger? Lorsque nous sommes emplis de bonheur et que on est en train de danser tellement les choses vont bien? Sûrement pas. Donc il y a vraiment cette dimension de pouvoir apprendre de toutes les expériences, quelles qu'elles soient. Donc cet état mental qui juge, qui critique, a différentes litanies. Parfois c'est le blâme, parfois c'est la honte, parfois c'est l'irrespect, parfois c'est l'ingratitude. Et la chose à reconnaître, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un type d'émotion qui contient du jugement, il y a de la souffrance. Le ressenti est tout simplement douloureux. Et voilà pourquoi inconsciemment, la plupart du temps, on tient ceci complètement à distance. Comme si ça ne faisait même pas partie de notre paysage. Donc rien n'est exclu. Toute expérience a cette possibilité, capacité de pouvoir nous apprendre quelque chose. On parle d'attention non jugeante et plutôt que justement de juger les expériences, la question à se poser c'est qu'est-ce que je peux apprendre dans cette situation, même en présence du jugement. Il y a des choses à apprendre. Si la tendance à être hautement aversif ou critique apparaît lorsque nous sommes présents, eh bien, il s'agira à ce moment-là de rencontrer ce type de manifestation, de percevoir que la réalité peut être faussée ou voilée. Le jugement apparaît de l'espace et a comme base la confusion, l'ignorance. C'est très important de comprendre qu'on distingue ici le jugement, l'esprit qui juge, qui critique, de notre capacité à discerner, dont la base est la sagesse. Donc il y a souvent la base de l'ignorance qui fait que les choses sont vues ou perçues d'une certaine manière. Si la base est la sagesse, la lucidité, à ce moment-là, il y a la capacité de discerner. Et donc, il ne s'agit pas, si vous aimez, vous préférez le terme de bon jugement, comme on peut exprimer ou aimer ce terme, il s'agit bien de garder une certaine intelligence. Donc, l'intelligence, le bon jugement, ou ce que j'appelle moi le discernement, n'a rien à voir avec cet esprit de jugement qui vient de l'ignorance. Donc, en d'autres termes, nous ne mettons pas du tout notre intelligence au placard. Et je crois que c'est tellement important de discerner l'un de l'autre. Plus nous allons avoir de discernement, plus nous allons avoir la capacité de percevoir le jugement, de vraiment être en présence. C'est quelque part l'intelligence qui nous amène ici, en premier lieu. Et cette intelligence qui intègre cette dimension d'aspiration, de motivation, à trouver des moyens quelque part de surmonter les aspects difficiles ou douloureux de notre existence. C'est quelque part le discernement qui nous fait sortir de notre lit le matin, même si par moments on a envie de rester sous les plumes. C'est le fioul qui nous fait avancer lorsqu'on a des projets. Donc, le discernement de l'esprit ou du cœur nous aide à porter de l'aide aussi à nous-mêmes et aux personnes qui sont en souffrance. Donc, lorsqu'on est en présence de la douleur, par exemple, c'est le discernement qui va aller chercher la compassion plutôt que le jugement qui continue et perpétue l'auto-jugement et la critique. Le discernement va vraiment, la sagesse va vraiment avoir un allié, c'est la compassion. Pour soulager, pour apaiser, pour vraiment donner un autre rapport à ces douleurs lorsqu'elles sont présentes. C'est vraiment, en tout cas pour ma part, le discernement qui m'a toujours fait avancer lorsque tout semblait impossible. Lorsqu'il y a un arrêt, il y a une pause, une qualité de présence et tout à coup, une capacité d'aller chercher à l'intérieur un aspect de lucidité et de percevoir, tiens, mais qu'est-ce qui se passe ? Intuitivement, cette compréhension nous fait cheminer dans le sens souhaité, c'est-à-dire la fin de la souffrance, plutôt que de rester empêtré dans celle-ci. Donc, si on regarde et si on explore ceci d'une manière très, très nette dans notre pratique et dans notre vie, on peut vraiment, par moment, avoir un petit peu de difficulté à discerner l'un de l'autre. L'esprit jugeant et l'esprit qui discerne peuvent, par moment, apparaître un peu semblables de l'extérieur. Et il est intéressant, pour ma part, comment on fait la différence par rapport à autrui. Et j'ai vraiment eu envie à un moment donné de rencontrer cet aspect-là par rapport à une personne qui dans ma vie a été malhonnête à mes yeux. Et lorsque je peux penser qu'une personne n'est pas honnête, vraiment, est-ce l'esprit du discernement ou du jugement qui s'exprime? Et le fait même de se questionner, c'est vraiment très intéressant, mais après, quand on commence à vraiment explorer, c'est comment est-ce que je fais la différence? On peut exprimer les mêmes mots en rapport à cette personne, être dans l'esprit jugeant ou avoir du discernement. Et ce qui distingue les deux, c'est que lorsqu'il y a du jugement et uniquement du jugement, il y a la plupart du temps, en tout cas pour ma part ça a toujours été le cas, la présence de l'aversion. S'il y a du discernement, il y a encore de l'ouverture, une certaine qualité de souplesse de l'esprit, malléabilité, réceptivité par rapport à cette personne. Et vraiment, en explorant ceci de l'intérieur d'un espace de vécu, de plus en plus, j'ai pu percevoir que l'état mental intérieur, vraiment la coloration de l'état mental était complètement différent. Un totalement tendu, figé, rétréci, justifiant bien sûr le fait d'avoir raison par rapport aux mots qui disent que cette personne n'est pas honnête, et l'état mental du discernement qui perçoit les choses comme elles sont mais qui n'a pas tout cet aspect de réactivité, où il y a de l'équanimité. Donc on passe de l'un à l'autre. On peut vraiment percevoir que c'est tout un processus pour la plupart d'entre nous lorsqu'on se trouve dans cette situation-là. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Il y a vraiment un cheminement. C'est clair, une pratique. Mais l'esprit jugeant est toujours très figé et rigide. Et ça, c'est une très bonne indication. Il y a de la présence de l'espace pour percevoir, par exemple, la confusion ou la souffrance de cette autre personne, c'est-à-dire voir au-delà de mon propre petit récit. S'il y a du jugement, la vision est complètement limitée. On ne perçoit même pas que peut-être sous-jacent il y a cette dimension de souffrance ou de confusion, d'ignorance dans l'autre, qui la fait agir d'une manière peut-être erronée. Donc s'il y a du jugement, la vision est limitée. Nous nous attachons à un point de vue et on en reste là. Et ça peut rester là pendant un long moment. Pour certaines personnes, des années. Dans cette situation, il n'y a pas d'évolution. Et on pense qu'on va naturellement être dans le juste en demeurant figé. Donc, il y a souvent beaucoup d'opinions dans l'esprit jugeant qui figent l'état de l'être, le rend confiné et naturellement, ça solidifie la saisie. En fait, nous ne sommes pas en contact avec la personne, mais notre jugement de la personne. Et ça, c'est un éclairage. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Ce n'est pas l'autre que je vois. C'est tout le scénario que je me fais, que je me crée, que je saisis, que je me répète. Plus je me le répète, plus j'y crois à ce scénario. Et plus je suis enfermée, et plus il y a de saisie, et moins il y a de paix intérieure. Ceci vraiment est la cause de la fragmentation à l'intérieur de beaucoup de personnes. Et c'est franchement douloureux et tendu. La fois où j'ai été le plus touchée dans ce genre de situation, c'est lorsque j'ai été bénévole dans un hôpital et cet hôpital avait des gens en fin de vie et que une personne assez âgée est vivait certainement ces derniers moments, enfin dernières semaines, et qu'elle m'a révélé un secret, moi personne étrangère, et où elle m'a dit « ça fait des années que je ne parle plus à ma fille ». Vous pouvez juste imaginer dans quel état cette personne se trouvait, pour X raisons d'un conflit entre elles. Et puis, je lui ai pris la main et je lui ai dit, mais vous ne croyez pas que ce serait peut-être le moment d'essayer, en tout cas, de peut-être faire un processus, que ça puisse changer. Et puis, elle n'a pas pu parler parce qu'elle était certainement prise au niveau des émotions, mais elle a secoué la tête en disant oui. Donc, bien sûr, on avait la possibilité de contacter la fille qui est venue. Et c'était une évidence qu'il y a pu y avoir un partage, donc un changement de situation. Et la fille est venue rencontrer sa mère et quelques heures plus tard, la maman est décédée. Il y avait certainement eu une conciliation, quelque chose d'une résolution. Mais c'est fou combien il peut y avoir des situations de vie où vraiment les choses sont tellement figées parce que on est juste pris dans un jugement, une situation enfermée. Et donc l'esprit qui discerne peut vraiment aller au-delà du jugement. On voit quelque part la personne et non pas simplement la situation dans laquelle on s'est enfermé. Donc c'est vraiment fantastique cette situation-là. Est peut-être triste, mais en même temps, elle est tellement souvent quelque chose, l'expression de la souffrance. Donc l'esprit jugeant, quelque part, est vraiment si souvent inutile. Ça ne nous aide pas. Donc il s'agit de rencontrer le jugeant dans notre méditation, certainement pas en le combattant, mais simplement reconnaître les pensées. Et souvent, dans notre parcours intérieur, on va, à ce moment-là, aller dans le sens du contenu. Il ne s'agit pas de simplement dire « Ah oui, il y a des pensées », et puis reconnaître les pensées, mais vraiment aller à la recherche du contenu, de qu'est-ce qui est en train de se dire. Ce n'est pas se perdre, mais d'avoir le sens, à ce moment-là, de dire que peut-être cette situation n'est pas la situation concrète et réelle. Et si souvent, c'est le cas. Donc, pas de figement, conscience des pensées et naturellement des émotions. Donc, prendre en compte le rapport à ce qui se passe. Ce qu'on a nommé naturellement attitude est essentiel. Comment est-ce que je me situe? Est-ce qu'il y a de l'aversion ajoutée à la pensée jugeante? Jugeant le jugement, qui naturellement à ce moment-là ne fait qu'amplifier la douleur et le poids. Saisir le jugement, s'agripper en l'alimentant, est la racine du problème. Donc on fait cette investigation. On a vraiment cette capacité ici, c'est extraordinaire, pour des petites choses justement, par rapport à autrui ou par rapport à soi, par rapport à nous-mêmes, comment peut-être on a envie que la méditation se passe de manière différente, vraiment prendre conscience de ce type de rapport. Il y a quelques jours, c'était tellement intéressant parce que il se trouve que j'ai une chambre, qu'à côté de ma chambre, il y a une autre chambre et que il s'agit d'une personne charmante, une résidente, et qui sur sa porte, après 3 jours, je suis arrivée 3 jours après, il y avait un mot qui était marqué « Tranquillité, 3 petits points, merci ». J'ai lu ça, puis je me suis dit « Ouh là là, c'est horrible, j'ai trop de bruit ». Et puis après, je me suis dit « Mais tiens, c'est intéressant, comment est-ce que je fais trop de bruit ?» Et puis, j'ai vraiment discerné, regardé. Comme vous le savez, j'ai une imprimante dans ma chambre puisque j'imprime vos listes d'entretien. Je me suis dit, ça doit être l'imprimante. Il faut vraiment... Et en plus, j'étais vraiment assez consciente, ce qui signifie que j'ai toujours essayé d'allumer l'imprimante au moment où il y avait les rituels en haut, sachant que cette personne faisait partie certainement des cérémonies de rituels le matin. Donc je me dis, non, ça peut pas être ça. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Et puis voilà, m'est venu le discernement, donc blâme, honte, jugement, auto-jugement, après jugement. Non mais franchement, c'est irritant, je veux dire, j'ai bien le droit de vivre, non? C'est vraiment intéressant ce qui se passe. Et puis... cette personne très gentiment a la tâche de nettoyer notre passage, notre couloir. Donc, je prends mon courage et voilà, on apprend. Hein, on va à la situation plutôt que continuer. Vous ne pouvez pas, donc, comme vous êtes dans le silence, impossible. Mais moi, je peux. Donc, je suis allée vers la personne. Et puis, je lui dis, je suis désolée, est-ce que je fais trop de bruit? Et puis, elle me dit, ah, mais c'est absolument pas pour vous. Tranquillité, merci. Il y a des moments où je fais mes propres pratiques. Et puis, il y a d'autres résidents qui viennent pour X raisons, parfois me voir et autres. Et c'est simplement que dans ces moments-là, je signale à la personne que je suis en pratique, que j'aimerais de la tranquillité. Et je me suis dit, mais c'est fascinant de voir pourquoi j'ai pris ce mot personnellement. C'est tellement intéressant. Et c'est ça qui se passe. Comme si j'étais le centre du monde. Quoi. tranquillité. Merci, la porte à côté, dans la chambre. Ça n'avait absolument rien à voir avec moi. Une fois de plus. Et de percevoir ce mouvement émerger, tout ce que ça peut faire comme vaguelette, souvent des plus, un peu plus grosses vagues, et puis ça passe. Et aujourd'hui, je peux vraiment en rigoler. Donc, vraiment d'aller, dans la mesure du possible, parler. Vous ne pouvez pas ici. J'espère pour vous qu'il n'y a pas de trop de fomentation par rapport à un espace de vie qu'on partage, mais la chose vraiment qui est éclairante et que, qui m'a vraiment permis de, d'avoir du discernement, c'est qu'une des intuitions qui a transformé vraiment mon vécu existentiel quelque part, c'est qu'on ne cherche pas à fuir ou à s'échapper de ce qu'on touche réellement, profondément. On ne cherche pas à fuir ce que l'on comprend. Et donc voilà pourquoi on va à la rencontre de ce qu'on peut apprendre. Voilà pourquoi plus on ouvre notre champ d'expérience pour inclure toute chose, on va vraiment avoir une autre disposition. Si on cherche à fuir, c'est qu'on ne comprend pas. Et généralement, on déteste ce qu'on ne comprend pas. Et dans ce fait-là, on se maintient à distance. Et ce maintien à distance qu'on peut nommer aversion, quelque part, a cette dimension de nous donner l'illusion qu'on se protège de cette manière-là. Mais malheureusement, ce n'est pas une protection authentique, une vraie protection. En réalité, c'est tout le contraire. Pour ma part, c'est de la peur. Donc, il est vraiment important de percevoir ceci pour soi-même. Et là, je ne vous dis pas, voilà, tirer des conclusions, tac, 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 j'ai compris, c'est ça, j'écris dans mon cahier. C'est peut-être pas du tout ce qui émerge pour vous-même, mais je vous décris juste un processus qui va vraiment aller dans le sens de passer d'un confinement, d'un état de saisie à plus de compréhension. La compréhension qui vient du discernement nous fait à chaque fois percevoir vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau de l'existence, de l'essentiel, qu'est-ce qui se trame là. Et c'est extraordinaire, parce que quand on a perçu ça une fois, deux fois, trois fois, on commence à prendre un autre chemin. Le chemin est tracé complètement différemment. Donc on apprend à ce moment-là à passer de cette dimension du jugement au discernement, par le biais du contact intime, et d'avoir confiance dans ce cheminement-là. Il n'y en a pas d'autre. Et ceci se fait très progressivement, pas à pas, sans précipitation, avec patience, avec soin. On peut, par moment, reprendre appui sur des qualités qui nous soutiennent, telles que la confiance, des points d'ancrage, toutes ces manières qu'on a de se ressourcer pour rester en présence de ce qui émerge en nous. Donc, vouloir se débarrasser d'eux est tout simplement un acte de rejet de la situation qui nous enferme un tout petit peu plus dans cette même situation. Si ceci se passe, on en prend conscience. Là aussi, on a à cœur de vraiment percevoir ceci. On doit constater que, quelque part, aucun d'entre nous n'est né avec ces tendances. Et je crois que c'est assez clair que ce type de manifestations sont des constructions par rapport à des conditions de vie. C'est vraiment cette dimension de conditions qui font qu'on apprend certaines choses. Et pour certains d'entre nous, elles sont bien exercées. Et donc, si elles nous empoisonnent la vie, eh bien, il s'agit vraiment, quelque part, non pas d'apprendre plus, mais de désapprendre. C'est dans le sens d'un dépouillement, dans le sens de ne pas d'un cumul, de rajouter, mais se rappeler que vraiment, il s'agit de construction mentale, de concepts. Et que ces concepts peuvent complètement être déconstruits. Donc cet esprit jugeant ne décrit rien de qui on est réellement, ne décrit rien de qui est l'autre. C'est un aspect et non pas la globalité. La définition de cet esprit jugeant est d'interpréter la réalité. Et de ce fait-là, il a cette inclinaison, cette manière d'être enclin à voir les erreurs. À vraiment voir les erreurs. L'esprit coupable va les figer. Et tout ceci est vraiment une vision tronquée, parce qu'elle est focalisée sur les particularités négatives. Lorsque l'esprit jugeant est teinté de désir-attachement, ce qu'on peut percevoir par moment, il y a du désir-attachement et une dimension d'esprit jugeant, il va naître très souvent l'envie d'un état de perfection. Je ne m'accepte pas comme je suis et j'aimerais être meilleur. Donc, on va avoir envie d'un état meilleur, d'un idéal. Ou peut-être pour certaines personnes, on va demander cet idéal, cet état de perfectionnement à l'autre. Et en fait, il n'y a pas de jugement sans image, quelque part, d'un état idéal imaginé et imaginé. L'état actuel des choses n'est pas suffisant, n'est pas satisfaisant. Et donc, on désire vouloir une autre image de nous-mêmes ou de l'autre personne. Lorsque le jugement est nourri de l'aversion, on touche à cet aspect, mais dans le sens de rejet et de peur, comme je l'ai décrit. Donc, il y a toujours ce jugement de ne pas faire assez bien, de ne pas être assez. Quelle que soit cette idée. Et ceci se produit à nouveau lorsqu'on appose une image de perfection sur la réalité. Une vision complètement fictive, irréelle, parce qu'on craint l'état actuel d'imperfection. Et c'est évident que dans ces registres-là, ce que je viens de décrire, il y a la présence d'émotions douloureuses, de la tristesse, du découragement, des difficultés. Et donc, il est important d'éclairer les émotions s'il y en a. C'est pas seulement du récit, c'est pas seulement un scénario, mais il y a des pensées un peu plus chargées qu'il est important de reconnaître. Donc, tout ceci crée un ensemble, une composition qui naturellement émerge de la confusion. Ça ne veut pas du tout dire ne rien savoir, ça veut dire voir de manière tronquée, c'est-à-dire pas la totalité, mais qu'une partie. Croire en cette existence d'un moi, par exemple, ou l'autre figé, étriqué, limité. Donc, tout ce cheminement du jugement au discernement nous permet vraiment d'aller vers plus de liberté intérieure. Un enseignant zen a dit « Le chemin vers la libération débute avec la compassion pour le sentiment du moi. » le chemin vers la libération débute avec la compassion pour le sentiment du moi. C'est exactement ça qui est en jeu, ce sentiment du moi, du je, de ce qu'on peut appeler ego. Et dans tous les cas, quand ce sentiment du moi est présent, il y a une évaluation basée dans quelque chose qui est de l'ordre de la vision tronquée, erronée. Pourquoi ? Parce qu'elle est partielle. Donc la compassion peut nous aider à soutenir une attention respectueuse dans ces cas-là. Exactement comme on a pu l'intégrer cet après-midi, une ouverture progressive de notre capacité à ressentir l'aspect douloureux de cette expérience, et elle aide aussi, surtout, à ne pas nourrir les résistances, les difficultés. À ne pas se sentir autant aversif, autant irrité, et progressivement les voir pour ce qu'elles sont. Donc, il n'y a aucun doute que ceci est aidant. Krishnamurti dit ceci, « Il n'est pas facile de s'observer. Si l'on y parvient, on commence à comprendre tout le processus des sentiments et des pensées. Lorsqu'on vit en toute lucidité, la signification complète de la contradiction intérieure, il se produit un changement extraordinaire, car alors on est simplement soi-même. On n'est pas quelque chose qu'on essaye d'être. On ne suit plus un idéal. On ne cherche pas le bonheur. On est ce que l'on est. Et de là, on peut repartir. Alors, dans ce moment-là, il n'y a pas de possibilité de contradiction. Donc, c'est vraiment cette dimension de comprendre le processus des sentiments et des pensées. Lorsqu'on vit en toute lucidité, la signification complète de la contradiction intérieure, il se produit un changement extraordinaire, car alors on est simplement soi-même. Voilà, je vais terminer avec un poème. J'en perds ma voix. S'appelle « Les oies sauvages » de Mary Oliver. Nul besoin d'être bon, nul besoin de marcher à genoux sur une centaine de kilomètres dans le désert, repentant. Il te suffit simplement de laisser le doux animal de ton corps aimer ce qu'il aime. Raconte-moi le désespoir, ton désespoir, et moi, je te raconterai le mien. Entre-temps, le monde poursuit son cours. Entre-temps, le soleil et les perles claires de pluie se déplacent à travers les paysages, au-dessus des prairies et des arbres profonds, des montagnes et des rivières. Entre-temps, les oies sauvages, là-haut dans le ciel bleu et pur, rentrent de nouveau au pays. Qui que tu sois, et aussi esselé que tu puisses être, le monde s'offre à ton imagination. Il t'interpelle, comme la voix rauque et animée des oies sauvages, clamant encore et encore ta place au sein de la famille.